France Inter, franceinter.com.
Bonjour à tous, c'est très heureux de vous retrouver dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer et de consommer en rond, en tout cas qui essaye, avec aujourd'hui Arnaud Caillé et Aurélie Forta à la technique, et assisté de Sophie Ledoré, Jean-Christophe Pinaza, c'est Xavier Pestugia qui réalise notre émission. Oui, heureux de vous retrouver afin d'accompagner, j'allais dire ensemble, ce changement de civilisation qui est en marche, en vous souhaitant, on va dire, une année plus sobre, une année où l'homme et la nature feraient pour une fois cause commune, une année où après être sensibilisé, concerné, interpellé, on agirait tous ensemble, chacun à son niveau, ce qui permettrait d'écrire, vous savez, un truc qui pourrait s'appeler un avenir commun et qui dépasserait les décisions à court terme. Bon, alors je vais vous résumer un petit peu comme ça, à grands traits, l'été 2008. Uranium du Tricastin, fuite radioactive à Romans-sur-Isère et Charleroi en Belgique, doute sur la qualité du béton des réacteurs EPR, bref, le paradis du tout nucléaire a un petit peu de plomb dans l'aile. EPO sur les routes du Tour, bon, ça c'est un pléonasme, ours des Pyrénées qui refuse la priorité à un quart dans l'Ariège, et d'ailleurs il ne portait pas son gilet jaune obligatoire, le brave animal, mais oui, il est en faute. Des taureaux de Camargue qui font le mur. Bref, ça fuit de partout et ça fait un peu désordre. Quoi d'autre? Ah oui, plus vite, plus haut, plus fort. Pollution made in Pékin dans les poumons des joueurs. Mais comme le dit le vieux proverbe chinois, on ne fait pas d'athlète sans casser les jeux. C'est assez lamentable, je suis d'accord. Le Grenelle de l'environnement. Alors, le bébé a bientôt un an, mais faut pas le jeter avec l'eau de la grande lessive d'automne du budget 2009. Les caisses de l'État sont vides, on le sait. Celles de la nature ne sont pas en pleine forme, et si on ne fait rien, ce sont des milliers d'espèces qui mettront la clé sous la porte. Alors, 2009, bonus écologique le retour. Carotte ou bâton pour la nouvelle superproduction de Jean-Louis Borloo des Bois, qui prend aux gros pollueurs pour donner à ceux qui se soucient un peu plus des générations futures. Les voies de la société de consommation, vous le savez, sont impénétrables, mais la fiscalité écologique vaut mieux que tous les GPS pour amener les brebis égarées sur le chemin du développement durable. La preuve, le succès inespéré du bonus automobile, hein, quand même cette année. Alors au menu de 2009, qu'est-ce qu'on a? On a une extension à toute une série de produits pas sympas pour la nature. Sans oublier le cadeau, ça s'appelle le TPZ. C'est pas un abonnement internet ça, non pas du tout. Non, c'est un taux à prêt zéro pour isoler nos maisons et ne plus laisser fuir nos toits et nos esprits. Alors en 2009, c'est vraiment tout ce qu'on lui souhaite au bonus écologique de laver un petit peu plus vert. Allez Borloo, faut tenir. Crise financière, bon alors c'est vrai qu'avant, on nous apprenait à cueillir les intérêts. Aujourd'hui, on détricote un peu le capital, c'est quand même fâcheux. Dans la finance, voyez-vous, les bonus, on les aime, oui, mais avec beaucoup de zéros. Tondre un mouton avant que la laine ne repousse est une nouvelle méthode de management terrestre appliquée par de doux agneaux baptisés traders. L'économie une fois de plus, 100 fois oui. La folle financiarisation du monde, non. Colbert, cher Colbert, m'entends-tu, toi qui plantais des chaînes, pour les 3 siècles à venir, reviens, ils sont devenus fous. Et la nature qui nous est chère? Alors vous avez le choix entre différentes définitions. Est-ce que c'est une simple variable d'ajustement? Un lieu de promotion immobilière avec golf estampillé développement durable? Ce que l'on voit à droite et à gauche quand on est sur l'autoroute? Ou bien une grande mutuelle pour la nature elle-même et les hommes qui y survivent? Eh bien les enfants, intuitivement, connaissent la réponse. Alors allez-y, sortez de l'enclos, sautez la barrière, le monde nouveau est quand même très enthousiasmant et devant, il est là, il est juste à portée de vie. Jean-Marie Pell, dans quelques instants, ça va être le point sur la rentrée avec lui. Et puis, tenez, écoutez cette voix.
Quand on est sur le causse, on s'assoit, ouais, derrière un buis parce qu'il y a du vent. Bah, c'est vrai qu'on a l'esprit qui s'envole. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on voit souvent des oiseaux. Maintenant, de plus en plus, on a des vautours qui sont un peu nos compagnons de tous les jours. On peut s'élever avec les vautours, on les voit planer. Alors, on est à la fois très ancré parce qu'économiquement, bah, il faut être très ancré. Et en même temps, on est complètement au milieu de l'espace, au milieu de l'univers. C'est vraiment, c'est un lieu magique.
Alors certes, il fait l'actualité, c'est José Bové, vous l'avez reconnu, mais là c'était différent, c'était au mois d'août, c'était chez lui, donc une autre, on va dire une autre image de José Bové, donc chez lui dans ce très beau département de l'Aveyron sur le Larzac, qui nous présentera aussi sa maison bioclimatique. Et puis on essaiera avec Séverine Millet de vous aider à monter une cantine biologique. Voilà, vous savez tout, et Emmanuel Chupin, notre programmatrice, nous a choisi quoi ? The Doux, oui, The Doux, at last ! Et qui retrouvons-nous en ce début septembre ? Jean-Marie Pelt, bonjour.
Bonjour Denis, bonjour à tous.
Bon, on est ravis de vous retrouver Jean-Marie avec peut-être un petit point. Vous étiez parti sur des réflexions sur un été pourri, vous me disiez ça il y a quelques instants.
Ben oui, parce qu'on a eu un été, en tout cas pour la moitié nord de la France, qui a été particulièrement pourri. Enfin la preuve c'est que j'ai écrit un bouquin, mais je n'ai pas pu l'écrire dans mon jardin comme je le fais souvent, oui. Ce qui pour moi est toujours... tout à fait désolant. Alors, la question...
C'est pour ça qu'on va parler de pourrissement climatique, peut-être.
Oui,
vous voyez, ça peut être un nouveau terme.
C'est
ça.
Tout à fait ça. Ouais. Alors, les gens se disent peut-être, comme les moyennes de température étaient plutôt inférieures aux moyennes saisonnières, les gens doivent se dire, alors, ce réchauffement climatique, est-ce que c'est la réalité ? Est-ce que c'est bidon ? Voilà.
Parce qu'une fois de plus, on ne fait pas toujours bien la différence entre la météo et le climat.
Absolument. Alors, il y avait déjà eu le printemps pourri à la Côte d'Azur.
Oui.
Donc, il y a des changements. Il y a des changements climatiques très importants. Alors, ce qu'il faut bien dire, c'est que le climat, ce sont des moyennes sur de nombreuses années. Et que les moyennes ne trompent pas. C'est vrai qu'il y a un réchauffement climatique. Alors, on en a eu une preuve tout à fait intéressante par une étude qui a été menée par les spécialistes des forêts de Nancy, qui est l'épicentre en matière forestière en France, comme chacun sait, où on a montré que pratiquement depuis 30 ans, c'est une étude qui a été menée sur 171 espèces, eh bien, tous les 10 ans, ça monte de 29 mètres en altitude. C'est-à-dire que les plantes, elles vont chercher les mêmes températures et pour ça, elles remontent. Mmh. Et ce mouvement est particulièrement net en ce qui concerne les herbes, parce que les herbes font des bébés chaque année. Ça va moins vite pour les arbres, parce qu'un arbre, si on peut dire, c'est plus lourd à déplacer, oui, parce que les générations sont beaucoup plus longues. Mais cette remontée est quand même une preuve évidente du réchauffement. Alors, on a aussi un autre coup de sonnette d'alarme. C'est une étude menée par des chercheurs néerlandais qui sont pessimistes. Ils sont plus pessimistes que les spécialistes du groupement intergouvernemental, voilà, d'experts sur le climat, le fameux GIEC, mais il faut parfois dire ce que veulent dire les mots ou des sigles. Alors, ils ont dit des choses inquiétantes comme tout. Ils disent qu'en 2050, les températures de 50 degrés seront fréquentes. Alors, 50 degrés, c'est effroyablement chaud.
On ne tient pas. Hein.
Oui, moi, j'ai connu un 45 degrés un 15 août à Bagdad. Bon, ben, je suis resté claquemuré dans l'hôtel. C'était avant la guerre, évidemment, il y a longtemps. On ne sort pas. 50 degrés, je ne sais pas ce qui se passe. Et dans leur étude, ils insistent sur les dégâts humains en disant, à de telles températures, la mortalité s'envole. Et ils disent aussi qu'il faudra compter sur des 42-43 degrés en Hollande, ce qui est encore plus extraordinaire, des 43 degrés et demi dans le littoral méditerranéen. Bon, espérons qu'ils se trompent, parce que s'ils ne se trompaient pas, nous serions dans des situations tout à fait dramatiques, en particulier pour les personnes âgées. On se rappelle les dégâts de la canicule 2003, 15 000 morts prématurés. Là, Dieu seul sait ce qui arrive à des températures comme celle-là.
Il y aura, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, une régulation de la population.
Oui, il y aura une terrible régulation de la population. Donc, alors conclusion, il faut être musclé et ambitieux en ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre, et il faut formuler un vœu. Monsieur Bush s'en va début janvier, on fait ouf, et à Copenhague, en 2009, la communauté internationale prend des décisions courageuses pour réduire au maximum les dégagements de gaz à effet de serre.
C'est incroyable comme cet homme, enfin ce président, donc, aura été complètement climaticide, comme on dit.
Pour le climat, ça a été évidemment totalement désastreux. Il a freiné les cas de fer Kyoto. Je crois qu'on le remerciera dans le sens second du terme. Oui. C'est quand on dit « je vous remercie ».
Alors Jean-Marie, d'autres événements en France, si on parle aujourd'hui, on va dire très peu du Tricastin, c'est parce que nous aurons donc une émission plus spéciale, on va dire, sur le thème, sur
on,
ce qui s'est passé.
On en fera une là-dessus.
Voilà. Dans les nouvelles qui peuvent être positives aussi, Jean-Louis Borloo donc, a annoncé donc, la venue d'écotaxes qui vont dépasser le domaine des voitures, ce qui était d'ailleurs inscrit aussi dans le Grenelle de l'environnement.
Oui, alors c'est l'effort que l'on va faire sur quelques engins, et frigidaires, autres engins domestiques, pour favoriser l'acquisition d'engins qui ne soient pas énergivores.
Oui.
Et ça, je trouve que c'est très bien. C'est très bien ce qu'on
va réorienter
sur
le marché,
les voitures. Quoi. On va orienter le marché vers quelque chose de plus raisonnable. Bon, il faut savoir que les frigidaires, puisqu'on en parle, et les congélateurs sont des énormes consommateurs d'énergie.
C'est le premier poste électrique.
Le deuxième, c'est la technologie maintenant, qui est aussi très énergétivore. Donc, sur tous ces engins-là.
C'est-à-dire écran plat, télévision, ordinateur, etc.
Tout ça consomme beaucoup d'énergie. Donc, aller vers des engins qui en consomment moins, c'est évidemment une nécessité absolue. Et M. Borloo a tout à fait raison.
Est-ce qu'on dit la vérité, je dirais, aux Français, qui n'est pas forcément très très agréable? Je veux dire qu'on a un peu le sentiment qu'on est entretenu dans l'espoir que tout peut redevenir comme avant.
Non, alors on va répondre non, tout ne reviendra pas comme avant. Nous ne sommes pas dans une crise entre une étape et l'étape suivante qui serait le retour à l'étape précédente. Nous sommes devant un changement de culture et même un changement de civilisation. L'énergie qui est le fer de lance de l'économie mondiale va devenir rare, va devenir très chère, produit le réchauffement climatique. Donc on est obligé de faire tout à fait autrement tout. Et ça, il faudra qu'on s'y habitue, j'allais dire petit à petit, le plus vite possible.
Est-ce que le libéralisme a les bonnes réponses aujourd'hui ?
Non. Non, parce qu'il s'est perverti, je dirais, le capitalisme. Il s'est perverti parce qu'il est devenu spéculatif, parce qu'il est devenu financier, parce qu'il se permet n'importe quoi, comme on l'a vu avec la crise américaine, où on fabrique de l'argent en quelque sorte sans des garanties correspondantes, ce qui est le déni absolu du mode de fonctionnement de l'économie où l'argent doit être gagé sur quelque chose. Autrefois, c'était l'or. Si on prête à quelqu'un pour acheter une maison, ben c'est la maison. Quand c'est plus garanti, on fait n'importe quoi. Ensuite, il y a la dérégulation complète où on est très, très, très content qu'il y a des milliardaires de plus en plus nombreux qui deviennent milliardaires au bout de 10 ans. Enfin, tout ça est profondément choquant, très choquant, le fait que le malheureux Bush a diminué plutôt les impôts des milliardaires, mais n'a pas voulu, semble-t-il, augmenter les mères seules qui élèvent leurs 2 enfants. Enfin, tout ça est inacceptable du point de vue de la justice, de l'équité et de la morale.
Bon, on reviendra aussi sur la faim dans le monde avec une autre émission. Un petit mot simplement sur José Bové, parce que, donc, reportage, donc, suite à votre intervention, dans quelques instants, donc après la chanson, on va se balader avec lui sur le plateau du Larzac.
Oui, ben, c'est un homme très courageux. C'est évidemment essentiellement grâce à son action qu'on a stoppé l'envahissement de l'agriculture par des OGM. Alors je lui dirais, cher José Bové, il faut calculer très serré les interventions pour qu'il n'y ait pas de bavures comme celles dont on a parlé ces derniers temps.
Oui, dans la Vienne, hein, c'était ça.
C'est dans la Vienne, oui, voilà. Absolument.
Merci Jean-Marie Pelt, et puis à la semaine prochaine. Au revoir Jean-Marie.
Au revoir Denis, au revoir à tous.
Les fous de guerre sont décorés, les fous de paix sont enfermés. Elle est pour toi cette chanson, toi le paysan qui sans façon un jour s'est retrouvé en zanzan. Ainsi José, José, ainsi José Bové, je dirais l'homme, banam, banam, banam. Ainsi José, José, ainsi José Bové, je dirais non, José n'est pas mauvais. José Bové, près de Millau, eu la courante dans un McDo. Les cornichons sont pas passés, il est revenu le démonter. Ah ah, José Bové, ah ah, a du kilo. José Bové a vu pousser des OGM à contrôler avec sa bande des gazelles, il les a mis à la poulette. Ah ah, José Bové, ah ah, est un rebelle. José Bové passe en procès, victime d'avoir trop bougé. Avec ses potes paysans, ils font la fête comme des gitans. Ah ah, José Bové, oh, oh, est un marrant. José Bové à la télé a vu son audimat grimper, mais quand il parle de la malbouffe, il prétend que c'est de l'esbrouf. Ah ah, José Bové ne peut pas dire bouffe. Ainsi José, José, ainsi José Bové, je dirais l'homme, banam, banam, banam. Ainsi José, José, ainsi José Bové, je dirais non, José n'est pas mauvais. Ainsi José, José, ainsi José Bové, je dirais l'homme, banam, banam, banam. Ainsi José, José, ainsi José Bové, je dirais non, José n'est pas mauvais.
Y'a pas de rapport, mais si, un rapport de police.
Oui, bah pour ceux qui n'aiment pas, c'est au moins dansant, si vous voulez, c'est ça. Donc, non, c'est un petit clin d'œil qu'Emmanuel Chupin a trouvé, notre programmatrice. Et c'était Gustave Parking qui interprétait donc cette chanson. Et là, on va découvrir un homme dans un cas très différent. Oh, bah on a déjà des sons de moutons. Ça va vous donner sans doute une vague idée du lieu où on peut se trouver. Et là, nous sommes en train de descendre un petit chemin pour se mettre à l'abri du vent sur le plateau du Larzac. Et je rejoins donc un habitant quand même célèbre des lieux, José Beauvais, bonjour.
Bonjour. Le vent joue un rôle important.
C'est un personnage.
Hein. Ouais, le vent, c'est impressionnant parce que bon, c'est le vent de nord-ouest qui est dominant, mais on a un vent du sud, qu'on appelle nous le vent qui rend fou, et qui arrive
comme
de
le vent d'autant, d'ailleurs, dans le Tarn.
Voilà, aussi. Tout à fait. Oui. Effectivement, dans ces cas-là, les gens restent enfermés, on espère que ça va s'arrêter, ça dure un jour, deux jours, trois jours. On en a plein les oreilles, mais c'est pas du tout, évidemment, c'est pas du bruit. On a l'impression en même temps d'être sur la mer.
Nous sommes d'abord dans un très très beau département qui est celui de l'Aveyron, qui est tourné vers l'Auvergne au nord et vers les Cévennes et la Méditerranée au sud. Je crois qu'un certain nombre d'entre vous donc connaissent. Alors on va se dire, le Larzac, combien de divisions ? Au moins une sur 3000 hectares, mais vous avez aussi des milliers de brebis, de fleurs, de chênes, quelques souvenirs de templiers comme ça qui hantent les murs des communes et très peu d'habitants au kilomètre carré. Alors vous imaginez un grand causse où la moindre goutte d'eau s'infiltre immédiatement. Je veux dire par là qu'ici, on ne joue pas avec la nature, on ne la domine pas, on l'épouse comme elle est et on fait avec. Bref, on est sur une terre de résistance qui cultive sa liberté et qui aussi forge ses caractères. Alors j'ai toujours débuté mes émissions précédentes avec, on va dire, des personnalités. Ça a été Pierre Perret, c'était Gilles Clément, c'était Jean-Louis Etienne, Jean Rochefort l'année dernière. Aujourd'hui, donc, c'est José Beauvais qui a donc élu domicile il y a plus de 30 ans sur ce Larzac. Et donc, on va parcourir ce lieu où le ciel, le vent, la neige, l'aridité, la terre jouent sans arrêt ensemble. Bon, l'homme, il est connu, bien sûr. Il conteste, il est contesté, il pratique la désobéissance civile. Et moi, je vous propose donc, à travers cette rencontre, peut-être une autre facette du personnage, qui d'ailleurs, dans son terroir et même ailleurs, est toujours très au courant des fortes dérives environnementales de nos sociétés. Alors c'est un reportage qui a été tourné début août, le 8 août, à Montredon, chez lui, donc avant les événements de fauchage récent d'OGM et de l'actualité juridique de Beauvais. Il s'agit de rencontrer donc cet homme, on va dire différemment, dans son cadre, en pleine nature, dans l'Aveyron. Alors José, déjà pour même quelques mots sur ce Larzac que l'on a sous les yeux, ça fait plus d'une trentaine d'années, évidemment depuis les années 70, on sait que vous êtes venu là. Vous avez même d'ailleurs repeuplé le coin, hein. C'était pas évident hein, à l'époque.
Non, effectivement, quand le projet d'extension du camp militaire est né en 71, une partie du Larzac avait été dépeuplée parce que beaucoup de gens craignant cette extension, l'exode rural aidant, beaucoup de fermes, évidemment, n'avaient plus personne. Et la majorité des terres avaient été rachetées par des propriétaires spéculateurs qui savaient que le projet d'extension allait se mettre en place. 103 familles ont résisté. Ça a été le pot de terre contre le pot de fer. Et après la victoire en 1981, eh bien, on a fait le pari de redonner vie à l'ensemble des fermes qui étaient abandonnées. Et aujourd'hui, eh bien, toutes les fermes sont habitées sur le plateau. Tous les hameaux sont habités. Et on a véritablement reconstruit une économie qui est liée en fait au territoire.
Il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, hein, vraiment de milieux très différents qui se sont engagés sur ce combat-là à l'époque.
Ah oui, on peut dire que ça a réuni véritablement toute la population du département de l'Aveyron d'abord. Et c'est vrai que l'Église a joué aussi un rôle très important. Et parce qu'effectivement, tout le monde se sentait concerné, aussi bien ceux qui aimaient les vieilles pierres que ceux qui aimaient le paysage. Donc voilà, ça a été un moment un peu magique où les gens ont été capables de se réunir pour dire non, mais surtout pour affirmer un autre projet, quoi.
Alors on est aujourd'hui maintenant dans un parc national régional, hein, c'est celui des Grands Causses.
Hein. Oui, c'est le parc régional des Grands Causses, qui est un parc assez grand, qui prend une partie du Larzac aveyronnais, le Causse Noire, et puis une partie de l'Aveyron en allant plus vers l'ouest, en allant vers Albi. Donc ça fait une zone assez grande qui fait que le Larzac fait partie de ce périmètre, avec évidemment une chose assez curieuse, c'est que c'est le seul parc, à mon avis, à ma connaissance, où il y a un camp militaire
oui.
et une autoroute.
On va essayer de ne pas éclater le buis, c'est pas exactement ce qui manque, mais on a du buis, on a du genévrier. Bon, on a le chêne qui se porte pas mal non plus là. Hein.
On a quelques chênes, oui, ici, c'est pas la zone du Larzac où il y en a le plus, mais bon. On en a des très beaux.
J'ai appris, pour ceux et ceux quand même qui s'intéressent à la biodiversité, à la nature, que sur ce 0,6% du territoire que représente donc ce Larzac, on a 40% en fait de la flore française qui est ici, qui est installée.
On a la plus grande diversité d'orchidées de tout le territoire, et c'était absolument extraordinaire de voir. Alors, l'Écosse, c'est quand même très particulier en France, parce que c'est un habitat très dispersé, une population assez faible, on est 2 habitants au kilomètre carré, donc
ouais.
On voit bien qu'on n'est pas nombreux, et dont la particularité, c'est l'élevage des brebis. Donc évidemment, l'habitat, il est lié à la capacité de ce territoire de pouvoir faire vivre des brebis, de pouvoir faire paître les brebis.
On a beau dire qu'il y a autant de pluie qu'en Normandie, c'est quand même une culture de l'eau qui est bien particulière. Parce que là, on est sur un cause, c'est vrai qu'il peut pleuvoir beaucoup. On a d'ailleurs l'Aigoual sous les yeux, parce que vous avez comme une vue vraiment 360 degrés assez étonnante. On voit jusqu'au mont Lozère, on voit peut-être jusqu'au mont Ventoux, je ne sais pas. L'Aigoual, on l'a sous les yeux, donc c'est le mont évidemment des eaux, où les eaux de la Méditerranée viennent taper sur cet Aigoual. Et là aussi, on a beaucoup, beaucoup d'eau. Simplement, elle n'est pas toujours très, très bien répartie. Quoi.
Non, l'eau est pas très bien répartie. En gros, il pleut à l'automne et au printemps, mais l'eau s'infiltre vite parce que c'est un plateau karstique, donc l'eau s'infiltre. Il y a une circulation d'eau souterraine, mais qui est très profonde, à 200, 300, 400 mètres de profondeur. Donc on ne sait pas très bien non plus comment ça circule. On sait qu'il y a des nappes profondes, il y a des résurgences tout autour du Larzac. Et ici, traditionnellement, sur les fermes, les gens étaient en autonomie totale. C'est-à-dire que chaque ferme, chaque bergerie, chaque maison d'habitation recueille l'eau de pluie à travers des citernes qui sont semi-enterrées. L'eau était très importante, c'était la seule façon, et donc chacun devait être autonome parce qu'il n'y avait évidemment pas dans le temps d'adduction d'eau. Ici d'ailleurs, l'eau n'est arrivée qu'il y a 10 ans, donc c'est très récent.
Alors on a un autre liquide qui la coule en filet continu, c'est évidemment le lait, parce que c'est la richesse du plateau. D'ailleurs, on entend, on voit ces brebis, et ça fait l'économie aussi de ce plateau.
Oui, on ne pourrait pas concevoir le Larzac sans les brebis. C'est le berceau du Roquefort, puisque la commune de Roquefort est sur le contrefort du Larzac.
Ouais.
Donc toutes les caves d'affinage sont en fait des grottes dans le quartz et se sont retrouvées être un lieu particulier pour l'affinage. Donc il y a toujours une adéquation ici entre l'économie et ce territoire.
Alors, José, là, on va encore bouger un petit peu parce que là, le vent a l'air de s'être calmé, donc au milieu de ces graminées. Est-ce qu'on vit le temps de la même manière ici lorsqu'on se pose, lorsqu'on est au milieu de ce silence qui maintenant est une denrée extrêmement rare puisque tout est sonorisé dans tous les sens? Comment il s'écoule ce temps ici?
Ici, le temps s'écoule d'abord en fonction des saisons, parce qu'évidemment, c'est le travail agricole qui fait que, évidemment, les gens ont des activités différentes. L'hiver, c'est le temps de l'agnelage, donc c'est le temps dans la bergerie, c'est le moment où il fait froid. Et donc, on est bien dans la bergerie, c'est le moment donc, où les agneaux naissent. Puis le printemps, au moment où tout pousse, les brebis sont dehors. Donc ça rythme vraiment le temps. C'est assez important. Et puis, il y a une période un peu favorable, c'est l'automne où il y a moins de travaux, les brebis sont taries. Donc c'est un moment de calme. Il n'y a pas de frontière sur le cours, on voit à l'infini. Et donc, il y a des gens qui sont angoissés par ça, parce qu'ils ont du mal à se définir dans un espace aussi ouvert.
Et en même temps, on peut se dire qu'au contraire, on peut voir loin, donc on peut se projeter dans une espèce d'avenir. Comment on le voit l'avenir ici, José Beauvais?
On le voit à partir de ce qu'on a fait. Par exemple, à la fois on fait le fromage à la ferme, mais où on a monté, donc il y a 19 ans maintenant, un marché paysan. Et donc tous les mercredis soirs pendant l'été, il y a un marché paysan où les gens viennent. Et c'est vrai que c'est assez étonnant parce qu'on est dans un endroit où on est quand même très peu. Il y a une vingtaine de personnes qui habitent ici. Et il y a entre 1500 et 2000 personnes qui viennent tous les mercredis soirs dans ce marché paysan où tous les producteurs fermiers de la région viennent vendre leurs produits. Il y a des animations, il y a de la musique. Voilà. Et en même temps, on parle aussi. On a mis en place une librairie. Et donc
c'est très joli, la brebis qui lit. Voilà. C'est ce que j'ai vu. C'est génial comme titre. Hein.
Bah oui, c'est ça.
On arrive ici. Ça.
La brebis qui lit, voilà. Il y a deux banderoles sur la place du hameau. Oui, oui. Il y a la brebis qui lit pour montrer l'entrée de la librairie. Et puis une autre, cette citation de Lucie Aubrac, résister se conjugue au présent.
La vie c'est comme les papillons, d'abord chenille dans son cocon, et puis un beau jour sortir du coton. Se retrouver en plein soleil, bâiller en déployant ses ailes et s'envoler. Oh, oh, oh. Comme les papillons, trois petits tours et puis partir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir. Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour. Papillon du soir, mouchoir. Les hommes, tout comme les papillons, d'abord pleuraient dans les jupons. Et puis un jour quittaient la maison. Tuileaux, valet de balcon, en jardin plané, de bonheur en chagrin. Papillon des jours, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, toujours, 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 toujours mouchoir.
Toujours mouchoir, toujours mouchoir, toujours mouchoir.
Papillon du jour, toujours, 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 toujours l'amour.
Toujours l'amour, toujours l'amour, toujours l'amour.
Papillon du soir, mouchoir.
Mais oui, il en reste des papillons, évidemment, sur France Inter et dans les champs. Il faut simplement pas trop les flinguer avec les pesticides. Donc, amis papillons, naviguez. Et il y en a donc sur ce plateau du Larzac. Respirez, souriez. Vous êtes à la fois sur France Inter et aussi dans le département de l'Aveyron. Et on va s'intéresser dans quelques instants. On poursuit le voyage avec José Bové. On va s'intéresser à sa maison écologique. Alors, j'ai presque dire bienvenue sur la Lune, hein, parce que de temps en temps, on peut comparer ça à une Camargue, mais en hauteur. Alors, on a remplacé les bœufs par les moutons, on aurait remplacé les flamants roses par les aigles. On a le calcaire et puis il y a la lauze qui vient à la fois couvrir, bien sûr, les toits. Et puis, on a toute cette pierre qui sert aussi à construire les habitations costières, on va dire typiques, et il y en a encore.
Ah bah, Montredon, quand on fait le tour de toutes les maisons de Montredon, on se rend compte qu'il n'y a pas une seule charpente dans Montredon.
Ah oui.
Toutes les maisons sont des voûtes, sont toutes les voûtes en pierre, avec une majorité de toits recouverts en lauze.
José, on va peut-être passer maintenant, on va remonter, et puis on va s'intéresser aussi à votre maison, que vous avez souhaité parfaitement moderne. J'ai un peu le sentiment que vous êtes dit pas de passéisme inutile. Il y a déjà du caillou. Le bois, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Et c'en est vraiment la preuve. Donc là, en tant qu'autoconstructeur, et puis bien sûr aidé avec architecte, vous êtes lancé là-dedans. Il a fallu combien de temps entre le premier coup de crayon, le projet, puis l'arrivée ?
Cette maison donc, a été construite en 2006. Et c'est en 2005 qu'on a commencé à réfléchir dessus avec Patrick Ballester, donc un ami architecte qui travaille sur les maisons écologiques depuis plus de 20 ans maintenant, avec ses associés. Et donc, il a fait donc cette toiture un peu en vague.
Forme de vague, oui, voilà. C'est ça. Et donc, ça, c'est pour épouser un peu, gérer la rotondité des formes environnantes.
Voilà, ou... c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, ces vagues montrent un peu ce qu'on voit un peu quand on regarde au loin. C'est-à-dire qu'on voit les collines qui se croisent, il n'y en a pas une sur le même niveau. Donc, voilà, il y a différents niveaux avec des courbes différentes. Et donc, c'était un peu pour reprendre cette idée de ces courbes de l'horizon. Alors évidemment, l'architecture en bois, parce que évidemment c'est un matériau qui était un matériau écologique, isolation en liège.
D'abord orientation, évidemment, on va dire plein sud. Je vois que la partie nord, il y a très peu d'ouvertures.
Ouais, il y a juste une fenêtre qui donne dans la grande pièce, mais effectivement toutes les ouvertures sont au sud. Et à l'est, où on a une grande baie vitrée. Donc voilà, on est dans une maison qui est à la fois très aérée, très ouverte. Et beaucoup de gens se disent, oh là là, ouvert autant au sud, il va faire une chaleur terrible, alors qu'en fait, c'est une maison très tempérée et qui l'hiver, en fait, prend tout le soleil, puisque le soleil est plus bas. Donc, il rentre dans la maison et il chauffe à travers les vitres et on gagne en quelques heures plusieurs degrés. Donc, on est vraiment dans un confort tout à fait formidable et partout où on est dans la maison, on a les yeux qui sont appelés vers l'extérieur. On habite vraiment sur le cos, dans le cos, en étant dans la maison. Ce qui n'est pas dans l'habitude des maisons traditionnelles qui, elles, étaient plutôt fermées avec des petites ouvertures.
Il y avait à la fois la préservation du paysage d'un côté et puis aussi se défendre des assauts de la nature.
Oui, traditionnellement, mais les gens, ils se protégeaient à travers les maisons et c'était des protections. Donc voilà, il ne faut pas rester ancré sur le passé. Aujourd'hui, bien, au moment de choisir la construction d'une maison, c'est vrai que le choix du bois, le choix de l'ouverture, de l'espace me paraissait important.
Alors cette maison, donc évidemment en bois, naturellement isolée, parce que ça a quand même été ça, donc le travail qui a été effectué, avec du liège, comment vous avez travaillé là ?
Le sol, effectivement, il y a du liège, il y a 20 cm de liège en vrac. Le toit est aussi un sandwich de bois avec 15 cm de liège en plaque au milieu. Donc on a vraiment une couverture totale et une protection par rapport à la chaleur et au froid avec le liège. Et le seul chauffage qu'on ait, donc on a un chauffage dans la maison, un poêle à granulés de bois, donc qui permet voilà, l'hiver de maintenir une température agréable. Alors souvent une température agréable qui peut être inférieure à la température qu'on a dans les maisons traditionnelle, parce que dans une maison en bois, l'impression de froid est beaucoup plus basse. En fait, il faut qu'il fasse beaucoup plus froid pour qu'il fasse froid.
Oui, donc on peut avoir 1 ou 2 degrés de moins sans aucune difficulté.
Mais même 4 ou 5.
4 ou 5, ah, d'accord.
Parce que ce sont des maisons qui ne sont absolument pas humides. Oui. Donc souvent, c'est l'humidité qui renforce le sentiment de froid. Oui. Et dans une maison en bois, à 17-18 degrés, c'est extraordinaire. Mais à 15 degrés, on vit très bien aussi.
Alors, deux solutions. Quand on est un garçon qu'on veut faire pipi, il y a quand même le Larzac, c'est pas mal. Donc on sait qu'après, ça va s'écouler directement pratiquement dans la Dourbie ou bien dans les Avennes. Ou bien sinon, on a aussi les toilettes sèches.
Oui.
Et là, vous avez voulu vraiment pousser le système jusqu'au bout. Vous êtes dit, allons-y pour les toilettes sèches.
Oui, toilettes sèches, ça me paraît assez évident. Ici, on est dans un pays où on n'a pas beaucoup d'eau.
Voilà.
Alors même si on a aujourd'hui l'adduction d'eau, c'est pas une raison pour gaspiller. Et on a fait d'ailleurs, on a calculé, on a regardé en vérifiant nos factures d'eau avant et aujourd'hui, maintenant qu'on est dans cette maison avec des toilettes sèches. Et bien sûr, un an à deux, on a économisé 15 000 litres d'eau en ayant mis en place des toilettes sèches.
Ça va très vite parce qu'on rappelle que les toilettes, c'est à peu près 30% de la consommation dans une maison.
Tout à fait. Et donc, c'est vrai qu'en même temps, ça permet de faire du compost pour les arbres, pour l'espace.
Donc, parce qu'on rappelle quand même le principe, c'est-à-dire qu'on prend de la sciure, c'est ça ?
On prend de la sciure ou des copeaux. Donc là, on a des artisans qui en ont. Et donc, on a une cuvette. Et chaque fois qu'on fait ses besoins, eh bien, on met une ou deux pelletées de...
Et quand le seau est plein, ben nous, on a le système le plus simple. Donc, on va le vider sur le compost et ça fermente. Ça se composte et ensuite, on peut l'étendre. Et c'est quelque chose qui devient ensuite, voilà, c'est un humus voilà, qui revient à la nature.
Ce n'est pas la cabane au fond du jardin, c'est les toilettes sèches au fond de la maison de José Bové. Comme
exactement.
Ça, voilà. Eh ben oui, d'accord. En levant les yeux au ciel, sur le faîtage, donc au sommet d'une des vagues de ce toit donc en bois. Là, on voit un petit totem qui a son histoire, parce que je crois que ça relie tout à fait les hommes entre le ciel d'un côté et puis la terre de l'autre.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une flèche fêtière. C'est une flèche fêtière Kanak, donc que j'ai ramenée de Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que sur toutes les cases en Kanaki, eh bien, il y a une flèche fêtière qui relie les esprits, qui relie le ciel à la terre. Donc c'est en fait l'esprit des ancêtres.
C'est une prise de terre spirituelle, une prise de ciel. Quoi.
C'est une prise de ciel, oui. Voilà. Et c'est le lien en permanence entre les ancêtres, ceux qui nous ont précédés et ceux qui habitent le lieu. Donc c'est vrai qu'en plus, celle-là, elle est quand même très symbolique parce qu'elle vient d'un clan particulier qui était celui du grand chef Attaï. C'est le grand chef Attaï qui avait mené la guerre contre l'invasion française dans les années 1870. Mmh. Et voilà. Et donc c'est les gens de sa tribu qui m'ont offert cette flèche fêtière.
À quoi rêve-t-on quand on est ici sur le Larzac? Quelle est la part du rêve que suscite ce paysage?
Quand on est sur le Causse, on s'assoit derrière un buis parce qu'il y a du vent. Ben, c'est vrai qu'on a l'esprit qui s'envole. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on voit souvent des oiseaux. Maintenant, de plus en plus, on a des vautours qui sont un peu nos compagnons de tous les jours, qui permettent de voir là où il y a un animal qui est mort. Parce,
parce que ce sont des alliés, hein, de toute façon, c'est des écarisseurs.
Ah, ce sont des écarisseurs extraordinaires, et c'est vrai que leur réintroduction dans les gorges de la Jonte, c'est quelque chose qui a été absolument extraordinaire, et maintenant ils se sont multipliés, et c'est vrai que c'est devenu, vraiment, c'est l'oiseau le plus familier presque du Causse.
Ouais, hein.
Et donc voilà, donc on peut s'élever avec les vautours, on les voit planer, et puis en même temps, voilà, on est sur un endroit où, c'est vrai que c'est un endroit privilégié parce qu'on n'a pas de pollution sonore. Et puis,
vous ne comptez pas sonoriser mon redon un jour, non?
Non, plus tard possible. Plus tard possible. Et puis, il n'y a pas de pollution, on va dire aussi, par la lumière.
Ouais.
Et ça aussi, c'est important parce qu'on a la nuit sur le Causse, c'est extraordinaire parce qu'on a, une vision de la voûte céleste absolument fabuleuse. Les étoiles, on peut les voir, vraiment, c'est merveilleux. Et il n'y a pas de point lumineux qui pollue. Ça aussi, c'est très important d'être vraiment dans cet espace. Alors, on est à la fois très ancré parce qu'économiquement, bah, il faut être très ancré. Et en même temps, on est complètement au milieu de l'espace, au milieu de l'univers. C'est vraiment, c'est un lieu magique pour ça. Et en plus, on est en altitude. Donc, on a toujours cette fraîcheur. On a toujours, on n'est pas accablé de chaleur. Il y a toujours une brise qui souffle.
Voilà, donc du grand air comme vous l'aimez dans cette émission aussi, avec un Beauvais, je pense, assez différent, on va dire, par rapport à l'actualité. Merci à Xavier Pestuggia et Antoine Viossa donc, pour le mixage de ce reportage. Et puis, avec Anne Gouzon, on a installé donc, des photos de cette maison, des sites, donc sur le site de CO2 Mon Amour. Vous aurez donc tout cela.
Si tu te fiches de la nature et que tu veux continuer à consommer sans réfléchir tout ce que la pub veut te faire avaler, mais vas-y, on croit en toi et en l'avenir. CO2, mon amour. Oh, Denis Chessou, mais calmez-les. Every day.
still on the film rights and be working on the sequel. And I'm giving you a long look every day.
C'était Elvis, oui, non mais Costello cette fois-ci qui écrit son livre comme ça tous les jours, c'est formidable. Allez, tenez, on va s'intéresser maintenant aux cantines bio.
Les rendez-vous de CO2 Mon Amour.
Connaissez-vous la stratégie du colibri? Alors, je vais vous raconter une très belle histoire. C'est un jour, enfin une très belle histoire. Ça commence par un feu de forêt, donc vous voyez, c'est quand même pas terrible, terrible. Et dans une forêt, vous avez donc tous les animaux qui sont pétrifiés. Et ils ne bougent pas, ils ne bougent pas. Ils voient un colibri qui est en train de s'activer, qui prend quelques gouttes dans son bec et qui les dépose sur le feu. Alors, tous les animaux le regardent et puis ils disent « Mais t'es cinglé, t'es fou, ces gouttes d'eau, ça ne va pas éteindre le feu, colibri !» Et le colibri de répondre « Non, mais moi, je fais ma part. » Et donc, collectivement et individuellement, on en est là en matière d'environnement. Alors, le livre de Séverine Millet, donc, qui s'appelle « La stratégie du colibri », est très intéressant pour ça, parce que ça donne envie. Ça donne envie de monter une AMAP, un pédibus, du covoiturage. On y reviendra régulièrement dans cette émission. Mais aujourd'hui, on va essayer, en ces temps de rentrée, de se monter une petite cantine biologique. Séverine Millet, bonjour.
Bonjour, Denis.
Alors, vous avez écrit cet ouvrage qui s'appelle « La stratégie du colibri » aux éditions Minerva. Pour la planète, passons à l'action. Et là, on va essayer de se monter cette fameuse cantine bio. Bon, c'est pas simple. Alors, ça concerne quand même quoi 0,1-0,2% de la restauration collective aujourd'hui en France, à peu près?
Oui, c'est ça. C'est vraiment ridicule.
Bon, mais le ridicule ne tuant pas, on va continuer parce que derrière tout ça, il y a d'autres modes de production, il y a d'autres façons de se réapproprier, je dirais, l'acte de se nourrir aussi. Et c'est quand même la restauration, en fait, en milieu scolaire qui est la plus concernée.
Oui, bah, c'est absolument fondamental hein, déjà qu'on puisse permettre à nos enfants d'accéder à une alimentation de qualité.
Alors les critères c'est quoi? Bah, je ne parle pas du bio que l'on mange, c'est pas ça, mais je veux dire, lorsque l'on a par exemple un ou deux aliments dans sa cantine bio, est-ce qu'on considère que c'est une cantine bio, c'est ça ou...
Disons qu'il n'y a pas vraiment de définition officielle hein, de la cantine bio, ouais. Mais on peut dire qu'un repas bio est composé d'à peu près 95% d'aliments bio quand même, hein, qui sont préparés selon les règles de l'art de la filière biologique. On ne peut pas mettre en place une cantine biologique 100% dès le départ. C'est impossible pour diverses raisons. Déjà pour maîtriser bien les coûts. Et puis ensuite, parce que c'est une réorganisation de la cantine, il faut aussi que les cuisiniers apprennent à cuisiner bio. Il faut que les enfants réapprennent le goût d'aliments qui ont plus de goût, qui sont souvent différents. La stratégie, c'est vraiment de partir de quelques ingrédients, quelques aliments et de procéder par étapes d'introduction.
Quelles sont les réticences que vous voyez en général?
La réticence principale en matière d'aliments bio, c'est le prix. Bon, c'est vrai, les produits bio sont un petit peu plus chers parce que ce sont des aliments de qualité. Ils sont certifiés en bio, donc
C'est un autre travail, bien sûr.
Oui, c'est un autre travail. C'est souvent des fermes de petite échelle, donc plus de main-d'œuvre. Sur une petite exploitation, il y a moins d'économies d'échelle et puis ils ont moins de subventions. Donc il faut prendre ça en compte et peut-être changer son regard sur le coût de la bio. Parce que la bio, donc, je l'ai dit, c'est une meilleure qualité. Et puis, il faut aussi remettre les choses à leur place. Un repas bio, c'est entre 10 et 15% plus cher qu'un repas non bio. Donc, ce n'est pas insurmontable. Il existe des aides financières qui sont soit communales, soit régionales. Et en fait, les professionnels du secteur biologique disent que lorsque la motivation politique de mettre une cantine bio en place est là, les fonds sont débloqués.
Donc, ça veut dire qu'il faut voir son maire, il faut aller un petit peu secouer tout ce petit monde-là. Alors, quelles sont les étapes à franchir?
Bon, je conseille de faire une petite enquête pour trouver d'autres parents motivés et créer un groupe pour soutenir le projet. Mmh. Et assez rapidement, d'aller rencontrer la filière biologique qui va être indispensable à absolument toutes les étapes. On ne peut pas faire sans, parce que l'objectif de mettre en place une cantine bio, bien sûr, c'est que les enfants mangent mieux, mais c'est aussi d'aider le développement local de la filière biologique. Et puis, c'est elle qui sait aussi faire. Elle sait faire pour maîtriser les coûts. Elle peut aider aussi pour faire de la sensibilisation. Elle peut aider aussi pour déterminer les menus de la cantine.
Donc, il faut détecter sur place, dans votre région, quels sont les producteurs, on va dire, les plus proches qui sont en bio.
Et c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, la FNAB, qui est la Fédération Nationale des Agriculteurs Bio de France, est organisée régionalement, localement. Donc, il suffit d'aller les voir. Et ils seront disposés à vous accompagner tout au long du projet.
Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'il faut faire après ?
Alors, une fois qu'on a fait ça, il y a l'étape de sensibilisation des enfants. Je l'ai dit tout à l'heure, les aliments bio ont un goût différent. Souvent, on découvre de nouveaux produits. Mais il faut sensibiliser les parents aussi. Oui. Parce que la difficulté, c'est que si les enfants mangent bio à l'école, mais qu'ils mangent n'importe quoi, autrement, je ne dis pas n'importe quoi forcément, mais autrement à la maison...
C'est un cri du cœur.
Voilà, oui, c'est un cri du cœur. Autrement à la maison, c'est vrai que les goûts sont vraiment différents. Voilà. Et donc, il faut aussi... Les parents sont souvent très réticents. Donc, il faut prendre le temps, vraiment. Moi, je reprends les propos d'une amie, là, Caroline Coiseau, qui a été conseillère et pilote du projet de mise en place des cantines biologiques dans les crèches parentales parisiennes. Une action qui est un véritable succès. Elle me dit vraiment, on a pris le temps jusqu'à ce que tous les parents soient d'accord. Et ils ont même fait venir Jean Bretagne, qui est une star en bio, grand spécialiste et cuisinier bio, pour sensibiliser les parents et pour former le personnel de cuisine. Et ça a marché du tonnerre de Brest.
Alors, il y a quand même déjà des villes qui s'y sont mises, hein. Lorient, Nantes, Rennes, donc Paris, Lyon. Et donc après, on se dit, bah, est-ce que ma commune peut aussi passer au bio ? Voilà. Et on voit quand même des choses assez enthousiasmantes, hein. Ça monte de plus en plus quand même, ça, comme demande.
Oui, puis c'est complètement d'actualité, hein. Si je prends le récent Grenoble de l'environnement. L'objectif, c'est d'atteindre 20% des produits bio dans la restauration collective d'ici 2012.
Donc, il faut y aller. Bah écoutez, donc beaucoup d'informations, hein, aussi des sites, des expériences. Donc, si vous souhaitez monter cela, c'est une très bonne base. Hein, c'est un très bon point de départ. C'est donc dans la stratégie du Colibri. C'est signé Séverine Millet. C'est aux éditions Minerva. Merci à vous, Séverine.
Merci, au revoir, Denis.
Et puis, on vous le rappelle, hein, donc, directeur de l'établissement, le maire, les enfants, les parents d'élèves, les cuisiniers, les gestionnaires aussi des achats, les profs, les agricultures et la filière locale. Voilà, il faut donc mettre tout ce petit monde en mouvement, mais on y arrive. C'est long, mais il faut de l'énergie, mais on y arrive. Voilà. Et donc, on déclinera aussi dans la stratégie du Colibri avec Séverine Millet comment installer une AMAP aussi en ce qui concerne le Pélibus. Ah, le Pélibus serait intéressant, Kézako. Eh bien, oui, les enfants à pied, figurez-vous. Oui, non, pas en voiture pour aller à l'école. Et ça marche aussi très, très bien. Alors, dans l'actualité, je tenais à vous signaler aussi que dans le département de l'Isère, le 12e festival de l'avenir au naturel, c'est à l'Albinque, c'est assez remarquable. Donc, commune de l'Isère, c'est juste jusqu'à demain, des foires, des conférences, beaucoup de choses. Donc le 12e festival de l'avenir au naturel, avec d'ailleurs aussi un fascicule bien fait sur Protégeons la faune sauvage de l'Isère, avec la liste rouge des vertébrés de l'Isère. Je crois que c'est assez unique, hein, ça. Donc le Conseil général s'y est mis, et puis aussi Jean-François Noblet et son équipe. Donc tout ceci au 12e festival de l'avenir au naturel. C'était un autre coup de cœur. Cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de consommer en rond était réalisée à la technique par Arnaud Caillet et Rolly Fortin aujourd'hui. Merci à Sophie Ledoré, à Jean-Christophe Pinaza, nos assistants, et puis Xavier Pestugia qui réalisait cette émission. Alors, possibilité pour vous de la réenregistrer pendant une semaine et de la réécouter pendant 4 semaines.